monsieur. Rappelle-moi ton nom d'allon, l'église du chemin.
Tout le monde, spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 10 mai 2017, 14h04, mon Dieu quel retard aujourd'hui pour l'émission numéro 131, Christophe Rollin en revanche je suis bien au micro et regardez, voyez, écoutez, je parle déjà très vite, nous avons différents invités et puis nous retrouvons Isa, ouais chouette, ça faisait quelque temps qu'il n'était pas venu donc il est bien présent pour poser des questions à Jean-François Vraude et Frédéric Aurier qui tous deux sont actuellement à l'affiche du spectacle Borg et Théa qui est donné au Théâtre de la Croix-Rousse. Ça a commencé, c'était hier la première, ça continue. Regardez, écoutez toutes les dates que je peux vous donner. Il y a d'importantes, il y a de nombreuses dates. C'est donc au Théâtre de la Croix-Rousse. Ça a commencé ce mardi 9 mai hier. C'est donné jusqu'au mercredi 17 mai la semaine prochaine. Attention aux horaires, c'est à 19h30 en soirée. Et puis il y a également des scolaires, il y a aussi d'autres horaires pour les samedis et dimanches. Je vous préciserai tout cela. Enfin, il y a même relâche. Bref, nous vous dirons tout cela comme d'habitude pour cette émission. Et nous commençons avec de la musique, puisque Jean-François Vraude et Frédéric Aurier sont tous les deux dans des ensembles, le trio La Soustraction des Fleurs et le quatuor Bella. Écoutons Moitié de Poulet, puisque c'est le titre que m'ont recommandé nos deux invités pour commencer cette émission. Vous nous écoutez sur radiocanu.org, comme d'habitude, ou bien vous le faites également, vous pouvez tout à fait, sur le 102.2 de la bande FM à Lyon.
Mourir, ne laissa à ses deux fils pour tout héritage qu'un poulet. Eh oui, un poulet. Mais les deux garçons n'étaient pas d'accord sur ce qu'il convenait d'en faire. Tandis que l'un voulait le manger, l'autre voulait le laisser dans la cour à picorer. Que si, que non, que si, que non, que si, que non. Que si, que non. Ils se disputèrent tant qu'à la fin, ne trouvant pas à se mettre d'accord, ils résolurent de le couper en deux.
Non.
Chacun disposerait à sa guise d'une moitié de poulet. Le premier frère coupa l'animal en deux et mangea sa part. L'autre laissa la seconde moitié piéter librement dans la cour de la ferme. Mais à force de gratter, de gratter, de gratter, à force de gratter, de gratter, de gratter,
à force de gratter, de gratter, de gratter,
à force de gratter, de gratter, de gratter,
il trouve des écus. Des écus bien brillants. Il trouve des écus bien brillants. Il les ramasse, n'en parle à personne. Il est bien content, moitié de poulet. Ah, moitié de poulet.
Moitié de poulet, moitié de poulet. Moitié de poulet, moitié de poulet. Moitié de poulet, moitié de poulet. Moitié de poulet, moitié de poulet.
Un beau jour, le duc vient à passer.
Hé, hey, moitié de poulet.
Monsieur duc,
j'ai plus un rond, bon sang. Moitié de poulet, prête-moi de la thune, sois chic.
Moitié de poulet se dit.
D'accord.
Il se dit.
D'accord.
C'est le duc après tout.
D'accord.
C'est le duc après tout.
D'accord.
C'est le duc après tout.
D'accord.
Alors évidemment, bon, il y a des
ça,
variantes, vous savez, là,
hein,
il y a quand même
des variations.
C'est pas fixé, par exemple, les nuances, Par exemple, suivant les versions,
petit 1,
il accepte de donner la somme.
Petit 2,
il se fait prendre la somme.
Petit 3,
par le roi.
Petit 4,
par le meunier.
Petit 5,
par un passant.
Petit 6,
tu prétends l'avoir perdu.
Petit 5, alors, c'est
nous pourrions continuer encore comme ça pendant 3 minutes. Oui, car je ne l'ai pas indiqué en début, en prenant l'antenne en tout début d'émission, que cet album, L'Après de l'Avant, du trio la soustraction des fleurs, je bredouille, un trio qui comporte Jean-François Vraud, notre invité, ainsi que Frédéric Aurier, qui est également là. Eh bien, cet album comporte de longs moments musicaux, et celui-ci, La moitié de poulet, excède les 5 minutes. Alors voilà, pour commencer l'émission, je me suis permis, c'est Frédéric qui m'avait tout à fait autorisé, je me suis permis de chanter le morceau, pour dire bonjour à nos invités, bonjour Gérald.
Bonjour à tous.
Salut Isa.
Salut tout le monde.
Et donc, la première question, hein, voilà, c'est ce que nous avons indiqué, c'est qui êtes-vous, Jean-François Vraud? Je crois que c'est comme ça qu'on prononce, m'avez-vous indiqué, du côté de la Bretagne. Et qui êtes-vous également, Frédéric Aurier? Je vous en prie, dans quel ordre est-ce que nous procédons?
Tu commences, Jean-François?
Non, je peux commencer, oui, bonjour. Je m'appelle Jean-François Vraud, moi je dis Vraud, mais on peut m'appeler de différentes manières, peu importe. Je suis né en 1959 d'une mère auvergnate et d'un père breton à Paris. C'est le moment où les deux grandes communautés régionales, parmi d'autres, sont à Paris, et donc les enfants de ces communautés se retrouvent et se rassemblent. Donc, et de deux familles assez paysannes finalement. Quand je remonte un peu et je cherche, donc voilà, je nais à Paris et je, comme mes parents divorcent assez rapidement, je suis plutôt happé, je dirais, par les femmes de la famille, ma mère et ma grand-mère maternelle, et donc c'est plutôt l'influence auvergnate qui va se faire, et voilà, je vais découvrir à l'adolescence que ces pays du Massif central sont des pays remplis de culture, de culture orale en particulier, de traditions, de chansons, de danse, d'histoire. Et je vais m'intéresser à ça, voilà. Et ce n'est peut-être que finalement tout récemment que je réinvestis le côté paternel en m'intéressant aussi à toute cette grande culture bretonne. Voilà, donc on connaît peut-être un petit peu plus que la culture auvergnate. Voilà, si j'essaye de dire qui je suis en quelques lignes, peut-être je pourrais dire ça.
Et c'est très bien ce que vous faites, puisque vous avez également bien inclus, bien compris cette deuxième question qui était aussi quel est ce spectacle que vous faites actuellement, ou disons, qui êtes-vous, vous qui êtes l'auteur de ce spectacle Borghetea? J'ai indiqué cela en début d'émission, auditeur, j'ai fait une petite erreur. Dimanche, j'ai indiqué qu'il y avait relâche. Non, dimanche, il n'y a pas relâche. Vous pourrez, sur la scène principale du théâtre de la Croix-Rousse, vous pourrez bien voir ce spectacle Borghetea à 15h. Il n'y a pas de relâche. Lundi, ce sera 19h30 également, ou alors lundi, c'est peut-être relâche?
Lundi, c'est la relâche.
Ah voilà, donc il y a tout de même relâche lundi. Donc Jean-François, j'étais en train d'indiquer que oui, vous avez, à travers ces quelques propos, moi, me semble-t-il, un peu parlé de ce spectacle. Vous parlez de l'enfance, vous parlez des communautés. Moi, il me semble que Borghetea, de quoi ce spectacle parle-t-il, si ce n'est d'enfance et de communauté? Vous évoquez également une culture orale, on en parlera tout à l'heure. Et puis, enfin voilà, vous évoquez différentes choses qui me semblent importantes. Peut-être qu'il y aurait une toute petite chose à vous demander, c'est comment êtes-vous venu à la musique et puis à l'écriture, puisque Jean-François Vraud, vous êtes le librettiste, on peut dire, de ce comment le nommer, opéra, cours opéra, théâtre musical, je vois que dit la
brochure de poche
du théâtre de la Croix-Rousse. Opéra de poche. Donc vous êtes le librettiste et puis vous êtes également musicien, puisque vous, avec votre violon, vous êtes au sein du trio La Soustraction des Fleurs. Et Frédéric Aurier, je ne l'ai pas indiqué ni en début d'émission ni à l'instant, vous êtes vous-même dans ce trio, et aussi avec le quatuor Bella, dont nous avons déjà parlé à une autre époque avec Martin. Donc Jean-François, comment êtes-vous venu à la musique? Comment êtes-vous venu au violon directement, ou autre chose?
D'abord, je suis d'une famille qui n'est pas une famille de musiciens. Et j'ai découvert la musique grâce au folk à Paris, avec des gens qui, après 68, se sont intéressés aux cultures régionales. Les gens du Bourdon en particulier, qui était un folk club assez célèbre à Paris. Il y avait la Chanterelle à Paris. À Lyon, c'était la même chose, avec Jean Blanchard et voilà toute l'équipe de La Bamboche et du Grand Rouge, qui faisait la même chose ici à Lyon. Moi, j'allais au Bourdon et j'étais très admiratif de tous ces musiciens qui jouaient d'un instrument, et il y avait beaucoup de gens qui jouaient du violon à l'époque dans ces folk clubs et dans ces ateliers. Pourquoi? Parce que le violon était un instrument d'abord qui a servi énormément dans les traditions populaires, dans toutes sortes de traditions populaires en France. Et puis aussi parce que c'était un instrument qui n'était pas cher. On pouvait trouver des violons ou puces pour 500 francs à l'époque, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé à jouer du violon, d'abord assez seul dans ma chambre, sur les disques que j'achetais, les 33 tours. Au grand désespoir de ma maman, à qui je cassais un peu les oreilles, mais voilà, qui me laissait faire. Et puis ensuite, j'ai commencé à travailler un peu plus sérieusement la technique, à rencontrer différentes personnes, à rencontrer des gens du classique, dont Frédéric, et donc à m'interroger un peu plus sur la question technique, voilà, et sur la question... La question du texte, j'ai dans mon parcours commencé à travailler avec le théâtre et puis ensuite avec les conteurs, avec les gens qui ont fait la même chose que nous, mais avec le conte, les histoires. Et donc j'ai beaucoup travaillé avec ces conteurs et donc travaillant avec eux, je me suis intéressé de plus en plus à la question de la littérature orale. Et donc de toute cette littérature qui est là au même titre que la musique dans ces cultures traditionnelles. Et à partir de là, j'ai commencé à raconter moi-même et puis aussi à écrire des histoires. Et c'est ce que j'ai fait donc plusieurs fois déjà. Et en m'appuyant sur des modèles, on sera peut-être amené à en parler dans l'émission, mais qui sont des modèles à la fois populaires, mais aussi plus anciens. Et je pense évidemment au modèle épique, puisque finalement Borghetea c'est une petite épopée, voilà, bien bien modeste, mais c'est écrit comme une petite épopée, voilà. Donc ces grands textes avec des milliers de vers qui racontent soit la formation d'un état, ou qui racontent éventuellement une guerre, ou qui racontent les péripéties d'un héros. Ici c'est une histoire d'amour, c'est autour d'une histoire d'amour, celle de Borghetea. Mais l'écriture, en tout cas le modèle pour moi d'écriture, était le modèle épique.
Vous l'avez évoqué, vous en avez parlé et il est présent, Frédéric Aurier. Tout ce que vous avez dit, Jean-François Brode, je vous en remercie, on le redéveloppera, vous l'avez dit à l'instant. Donc il est présent, vous l'avez nommé il y a quelques instants, vous avez nommé Frédéric Aurier en disant que sa rencontre vous avait amené à... Je crois avoir compris une culture peut-être plus classique. Alors, nous le tenons. Pourriez-vous, hein, Frédéric, vous présenter également? Puis alors, peut-être aussi revenir sur cette rencontre qui, vous l'indiquez sur le site, je crois l'avoir mis en lien sur notre blog, le site QuatuorBella, je ne sais plus si c'est QuatuorBella.com, plus ou moins. Vous évoquez, enfin, dans votre partie de biographie, il est indiqué que la rencontre avec Jean-François Vraude a été rencontre importante. Donc, tout d'abord, vous-même, Qui êtes-vous? Comment êtes-vous aussi venu au violon? Je crois que c'est votre instrument. Et puis cette rencontre avec Jean-François, comment cela s'est-il passé?
Oui, moi je suis violoniste également, mais j'ai un parcours bien différent de celui de Jean-François. Moi je suis un violoniste classique. J'ai appris au conservatoire à jouer du violon et à jouer le répertoire classique.
Quel conservatoire, puisqu'on en parlait?
Moi je suis, alors c'est peut-être ce qui nous a réunis avec Jean-François, moi je suis aussi auvergnat d'origine, et donc à l'époque je travaillais à Clermont-Ferrand. Et voilà, j'ai étudié mon violon, petit garçon.
À Lyon. Je crois que c'était à Lyon le conservatoire, non c'est plus tard que vous arrivez à Lyon?
Voilà, le Lyon c'est la fin de mon parcours, puisque je suis rentré au CNSM, le conservatoire supérieur de Lyon, à 18 ans. Voilà, mais avant ça, j'ai eu la chance de vivre pas mal de choses. Et c'est drôle parce que Jean-François a évoqué sa double filiation bretonne et auvergnate. Et il s'est passé quelque chose d'un peu similaire pour moi. Moi, je suis purement auvergnat avec un petit quart aveyronnais. Mais par contre, j'ai eu l'occasion de vivre jeune enfant dans le Finistère. Et quand on vit dans le Finistère, on est obligatoirement plongé dans un bain de musique traditionnelle, puisque c'est très très fort là-bas. On est voilà, il y a des festounos dans tous les coins de rue, tous les soirs, partout. Il y a des bars, il y a des chants de marins à Brest, il y a des voilà, tout ce qu'on veut. Et donc je me suis mis à écouter beaucoup de musique, où là aussi j'entendais beaucoup de violon, et je me suis demandé mais pourquoi je fais pas ça moi, pourquoi mes profs ils m'apprennent pas ça. Donc j'ai commencé petit à petit, tout en travaillant mes gammes, mes exercices et mes petits concertos, à aussi apprendre des reels irlandais, des enterdros et voilà. Et puis je me suis demandé, mais moi qui suis auvergnat, est-ce qu'il y a aussi par là-bas une tradition musicale ? Je me suis aperçu que oui, il y avait une tradition musicale et que certains musiciens de talent défendaient cette tradition, comme par exemple Jean-François Vrault. Et donc c'est vers l'âge de 13 ans, je pense, que j'ai rencontré Jean-François en stage de musique. Donc Jean-François a été mon professeur au départ de musique auvergnate.
Ça nous fait toujours rire hein, quand on évoque ce moment-là, mais
c'est vrai.
Mais c'est la réalité, tout de même.
Et en fait, on ne s'est pas quitté depuis. On ne sait plus, et puis on joue ensemble depuis. Voilà. Alors, à part ça, tout de même, mes études classiques ont continué. J'ai donc fondé avec trois copains un quatuor à cordes, complètement classique, hein, deux violons, alto, violoncelle. Ce qui est peut-être un tout petit peu moins classique, c'est qu'on s'est dit qu'on allait se consacrer à la musique du XXe siècle et puis à la création contemporaine. Parce que le quatuor à cordes a ceci de particulier, que c'est une formation qui existe depuis à peu près 250 ans. On peut dire que Haydn est un peu le papa du quatuor à cordes. Mais aujourd'hui, il y a encore plein de gens dans le monde entier qui écrivent de la musique pour quatuor à cordes. C'est pas le cas du trio avec piano, c'est pas le cas du quintet, c'est pas le cas de beaucoup de choses, mais le quatuor à cordes a une tradition très, très vive d'écriture et d'expérimentation, du coup.
Et alors, le nom que vous avez choisi pour votre quatuor est justement une grande figure tout de même de la figure du 20e siècle. Musicien hongrois, je vous laisse le nommer avec justement l'accent hongrois, je crois que vous l'avez bien.
Je sais pas, je fais pas d'hongrois, c'est une langue fascinante, mais voilà. Quatuor Béla, évidemment, pour Béla Bartók, qui est pour nous, un des compositeurs les plus charismatiques du XXe siècle, qui a écrit six quatuors qui sont six chefs-d'œuvre, voilà, très, très importants dans la musique du XXe siècle et dans la musique de quatuor. Donc on a voulu se placer sous le patronage de ce monsieur qu'évidemment on n'a jamais pu rencontrer. On a quand même pris la liberté d'utiliser son prénom.
Les voilà. Avez-vous tous enregistrés, ces quatuors de
Pas du tout, non. À ce jour, on en joue trois sur les six. Et peut-être on se lancera dans quelques années dans l'enregistrement de ces œuvres, mais il faut ça demande de la maturation, de les jouer beaucoup. On se presse pas.
Chaque chose en son temps, notamment. En plus, vous sortez d'un magnifique album, Académie Charles Cros, autour de Ligeti, le Quatuor Béla.
C'est notre prochaine écoute, Gérald, la prochaine pause
musicale. L'album.
Oui. Alors aller pas à pas vers. Vers Béla Bartók, on a enregistré Ligeti, qui est aussi un Hongrois, qui lui nous a quittés il y a quelques années.
Hongrois-roumain, c'est un peu des deux, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est-à-dire qu'il est né dans une, comme Bartók d'ailleurs, dans une région qui était anciennement en Hongrie, et puis voilà, après la Première Guerre mondiale, qui est devenue roumaine, en Transylvanie par là-bas, la région de Dracula, mais voilà. Aussi de ses deux illustres. Compositeurs.
Qui ont puisé beaucoup dans le répertoire justement traditionnel et populaire.
Oui, alors Bartók tout particulièrement, il a pas dire qu'il a inventé l'ethnomusicologie, mais c'est presque tout comme. Bon, c'était un pianiste renommé de son vivant, il faisait beaucoup de concerts, il avait une activité pédagogique assez forte, il composait, et puis il battait la campagne avec un vieil enregistreur à rouleau, en essayant de persuader les paysannes effrayées de chanter ce qu'elles savaient de berceuses. Il le raconte hein, très bien. C'était donc avec des appareils avec des grands pavillons. Les gens ne comprenaient pas. Ils se disaient que s'ils enregistraient, ça veut dire que ça allait capturer leur voix et qu'après, ils n'auraient plus de.
Comme la photographie au début.
Voilà. Donc il chantait lui-même un truc dans le cornet pour prouver que tout allait bien, que ça allait bien se passer. Et puis.
Vous pourrez presque entendre cela tout à l'heure, auditeur, disons, pas exactement une voix de Hongrie du milieu du XXe siècle, mais plutôt une voix, je crois, malienne, un griot. Enfin voilà, on va essayer de préparer ces différentes choses, mais dans un premier temps, j'avais aussi peut-être une toute petite précision. J'ai en tête le nom d'un autre compositeur, je crois, hongrois, Zoltán Kodály. Il me semble que lui aussi, l'ethnomusicologie, ou moins...
Oui, grand compagnon d'armes de voilà, Béla Bartók. Qui lui aussi s'est immensément investi dans la collecte des traditions populaires de son pays et des pays avoisinants.
Et a-t-il composé lui aussi des quatuors ?
Oui, il a composé deux quatuors qui sont assez peu joués, qui, je dois dire, sont un peu mineurs dans sa production. Il a fait des choses peut-être plus fameuses que ça. Il y a notamment une sonate pour violoncelle solo, qui est un immense chef-d'œuvre. Je vous recommande de découvrir ça si vous ne connaissez pas ça.
Pour finir avec le quatuor, si je peux me permettre, la postérité, la pérennité du répertoire et de la forme quatuor, est-elle due au fait que l'alto, il me semble, c'est un instrument assez récent, l'alto. C'est quoi l'histoire de l'alto ?
Non. L'alto...
Il est venu après le violon, non ?
Oui, probablement, il y a eu une phase, disons, à la fin de la Renaissance où la lutherie s'est beaucoup cherchée, où les formes évoluaient beaucoup, et puis voilà, à la période baroque, fin Renaissance, début baroque, la forme du violon c'est vraiment fixée, et puis la voix intermédiaire de l'alto, la nécessité de l'alto dans la musique polyphonique est apparue très vite, donc... Voilà, mais après c'est vraiment à partir de 1760 qu'on s'est dit que ces quatre instruments-là ensemble, c'était bien, c'était équilibré, ça marchait. On écrivait plus en quintette avant, à cinq voix.
D'accord.
Et puis la musique classique s'est réduite à quatre voix.
Non, auditeur, vous n'êtes pas sur France Musique. Et attention, vous n'assistez pas non plus.
Pardon, c'est terrible.
Non, mais attention, c'est Gérald qui est coupable.
Ah, non, mais
vous n'assistez pas à une conversation de délitiste, une conversation... ça pourrait presque virer... Non, je n'ai pas nommé d'autres termes. Auditeur, rassurez-vous, nous parlons bien du spectacle. Puisque dans l'émission spectaculaire à 14h25, on ne pourrait pas faire autre chose. Nous parlons bien de Borg et Théa, qui est actuellement au Théâtre de la Croix-Rousse. La première était hier, mardi 9 mai. Rassurez-vous, il reste encore une foultitude de représentations jusqu'au mercredi 17 mai. La durée de ce spectacle de 55 minutes, c'est à partir de 8 ans. Je pense peut-être y aller avec mes mouflets qui sont un poil plus jeunes parce que ça me semble accessible. Il y aura un bord de scène le mardi 16 mai, c'est-à-dire à l'issue de la représentation, comme nous le faisons maintenant, on pourrait converser, on pourrait discuter avec les artistes. Il y a d'autres musiciens sur scène que Frédéric et Jean-François. Il y a également peut-être certains choristes resteront de la maîtrise de l'opéra. Et puis aussi, puisque je parle de dates et que je les ai sous les yeux, entrée libre pour les mardis... lundi 22 et mardi 23 mai à 20h pour la présentation de la saison prochaine au Théâtre de la Croix-Rousse. Voilà, il fallait tout de même l'indiquer. Borg et Théa, nous en parlons dans quelques instants. On termine cette présentation de nos invités, Jean-François et Frédéric, avec davantage peut-être Frédéric, alors qu'on avait commencé avec Jean-François et la soustraction des fleurs. Frédéric, vous le direz peut-être tout à l'heure, vous appartenez aux deux, et donc là nous allons écouter un extrait d'un quatuor de justement Giorgi Ligeti, le quatuor numéro 2. Nous écoutons le quatrième mouvement, le Presto Furioso Brutale Tumultuoso, et puis nous allons essayer de préparer cette voix d'un griot malien. Vous allez entendre ça. Eh bien écoutons, et puis c'est tout.
Thank you.
Et voilà, là ça a parfaitement marché. Isa, Gérald, oui, tu veux... Non, rien à préciser. Moi, je vais préciser. Alors, nous écoutions un extrait de cet album. Je ne l'ai pas nommé l'album. Métamorphose nocturne de Giorgi Ligeti, enregistré donc, bien entendu, par le quatuor Béla Bartok. Enfin, du moins, c'est assez compliqué en hongrois. Un quatuor dans lequel joue au violon Frédéric Aurier. Nous écoutions en début d'émission, et l'ai-je indiqué aussi, c'était la soustraction des fleurs. C'est compliqué à prononcer cet aphorisme de ce poète. Gérald, tu as le nom de ce poète
C'est André Ricrot.
André Ricrot, enfin voilà. Donc compliqué ce nom, la soustraction des fleurs, le trio de Jean-François Brode. L'après, si j'avais donné ce titre, l'après de l'avant, les deux sont enregistrés. Non, je me trompe, c'est que l'après de l'avant qui est avec Radio France, chez Signature. Alors que Giorgi Ligeti, Métamorphose Nocturne, c'est chez ce label qui a une.
Aeon.
Une vraie esthétique. Aeon, effectivement, c'est un peu. Ils sont très étranges, les pochettes sont toujours...
Disque ultra primé, hein, je le rappelle,
très
et qui a l'air pas trop dur à écouter, c'est pas trop ardu pour les gens qui ne sont pas très au fait ou très amateurs de musique contemporaine, syncopé et...
Dur, pourquoi ?
Ah, je sais pas, c'est un cliché de dire ça, mais bon. C'est vrai que parfois la musique contemporaine a mauvaise presse.
Oui, c'est certain, j'ai choisi un extrait... qui voilà pour secouer un petit
peu les oreilles.
Tout le monde, il y a des le premier quatuor est peut-être plus accessible immédiatement, il est très très rigolo, c'est une musique très 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 ludique et pleine d'humour. Mmh.
Il se trouve également sur cet album.
Composé en quelle année, ce genre de choses là?
Le deuxième qu'on a écouté, c'est 68.
Mmh. À 14h30, il est quand même temps de parler de Borghetea, oui. Bien plus précisément, même si, moi j'insiste, hein, on l'a évoqué un petit peu au tout début, à travers les premiers éléments biographiques de notre invité Jean-François Vrault. Voilà, la parole est à vous, Frédéric et Jean-François, pour parler de peut-être du livret de j'arrive toujours pas à caractériser, hein, je lis sur la petite fiche du théâtre de la Croix-Rousse, je lis théâtre musical, mais je crois que c'est plutôt le théâtre musical qui se qualifie, enfin comment dire, le théâtre de la Croix-Rousse qui se dit théâtre musical, sinon pour cette œuvre. Cours opéra, opéra de poche, tu disais, c'est ça? Oui. Donc la parole est à vous, Jean-François, librettiste et musicien également. Pour vous, Frédéric, il y a peut-être un peu de composition, mais je crois que vous indiquiez tout à l'heure que Jean-François aussi s'est attelé à la chose. Enfin, peut-être cette histoire d'ailleurs, hein, Jean-François, Borghetea, on les voit beaucoup. C'est une sorte de pic que je vous lance.
Moi, d'abord, je voudrais dire une chose, c'est qu'il faut défendre la création contemporaine. Je reviens là-dessus parce que c'est notre devoir à nous, les artistes, qui portons ces œuvres. Je le fais beaucoup moins que Béla, mais il m'arrive aussi d'être dans des propositions très innovantes. Il faut vraiment porter ces œuvres et les défendre et aller contre cette pensée qui voudrait nous faire dire toujours que ces choses sont difficiles. Si on regarde l'histoire de l'art, on voit qu'elle est sans arrêt faite de ruptures et que des gens sont arrivés avec des propositions innovantes, parfois choquantes pour certains, mais que c'est toujours ça qui a fait avancer le monde. Donc il faut, je pense, dans notre propos et la façon dont on parle des choses, faire confiance à la force des œuvres. Et je pense qu'on peut faire confiance à la force des œuvres. Et en l'occurrence, quand on écoute Ligeti joué par le Quatuor Béla, j'allais presque dire peu importe sa culture et peu importe ce qu'on connaît de la musique contemporaine, c'est la force de l'œuvre, la puissance de, j'allais dire, du mur de son qui est là, oui, c'est presque ça, qui peut vous prendre aux tripes en dehors de toute culture. Je suis moi un amateur d'art plastique, comme toi, je pense, et je pense qu'on peut voir certaines grandes œuvres de la période contemporaine sans avoir une culture de l'art très importante et être touché par ça. Donc je reviens juste 5 minutes sur cette chose-là. Et à sa manière, le livret de Borghetea est un mélange de choses très anciennes, donc de l'épopée, comme je l'ai dit, qui vont de Homère à toutes les épopées des cultures orales, qui intègrent évidemment cette question qui est une question qui est au cœur de l'œuvre, qui est la question du changement climatique, qui a quand même motivé cette écriture. Je suis de cette génération qui a connu des vraies saisons, Avec des vraies bascules de saison, qui a connu la neige, qui a connu, je dis pas que tout a changé, mais en tout cas on sent bien que quelque chose a bougé de ce point de vue-là dans le monde. Et donc j'avais envie d'écrire quelque chose sur ce sujet qui ne soit pas alarmiste, mais qui soit poétique, qui soit allusif, qui nous fasse réfléchir sur ces questions. Et donc j'ai choisi ce type d'écriture qui est à la fois épique, donc, dans le sens que ça raconte une longue histoire, qu'on racontera peut-être dans quelques milliers d'années, et en même temps, en m'appuyant sur aussi des choses plus contemporaines. À table, on a tout à l'heure évoqué Michaud. Bien sûr, Michaud est pas loin de cette écriture, Le voyage en Grande-Garabagne, au pays de la magie. Mais aussi une certaine distance humoristique vis-à-vis de, effectivement, de ce drame, ou de ce qu'on peut considérer comme un drame, qui est ce changement climatique, de pouvoir prendre un peu de distance. Et je faisais confiance aux enfants pour porter cette distance, parce que évidemment la façon dont eux y vivent cette chose-là aujourd'hui n'a rien à voir avec la façon dont moi je l'aperçois. Donc je me faisais tout à fait confiance aux enfants pour porter cette distance et nous renvoyer en permanence que eux y sont aujourd'hui dans l'action, les porteurs de ce qui va se passer, que peut-être c'est peut-être eux qui vont régler le problème, que nous on est déjà les papis, mais il y a une chanson qui s'appelle « Et les papis », on est déjà les papis dans l'histoire, que c'est nous qui leur laissons ce monde-là, et donc on est les papis effectivement qui ont peut-être fait quelques erreurs, ou pas, je ne sais pas. Mais donc l'écriture de ce texte, il est fabriqué de toutes ces influences. Voilà, j'espère qu'elles sont digérées et que ça finit par fabriquer un texte homogène. Je l'espère, j'en ai le sentiment, peut-être je me trompe, c'est vous qui me le direz. Mais en tout cas, voilà sur quoi s'appuie l'écriture.
Oui, c'est moi ce que je pourrais dire pour réagir. Effectivement, une homogénéité qui existe. Qui est porté, enfin voilà, c'est à ça que je souhaite arriver, c'est porté par des artistes qui sont assez tout de même stupéfiants. Nous le sommes dit tout à l'heure que c'est une bonne chose que Gérald Desmoyers ait pu assister à la première hier, et pour ma part, j'ai trouvé la qualité artistique, la qualité du spectacle, mais stupéfiante, niveaux, mais à tous les niveaux. Et là, je vois un mot qui me faisait me rappeler cette belle chose que j'étais en train d'oublier. Je vois indiqué dans la distribution, parce que on a parlé donc tout à l'heure de ces deux ensembles, le Quatuor Bella ainsi que le trio La Soustraction des Fleurs, et nous n'avons pas nommé ces autres musiciens. Je vous laisserai peut-être le faire si vous le souhaitez, Frédéric et Jean-François. Mais je vois pour vous, Jean-François, vous êtes donc distribué deux fois, puisque vous êtes dans La Soustraction des Fleurs. Vous êtes indiqué violon, mais alors violon avec un S, alors que quand vous êtes nommé ensuite pour le Quatuor Bella, c'est seulement violon tout court. Enfin, bien, quoi qu'il en soit, ce violon avec un S, parce que j'étais en train de dire que j'avais oublié, vous utilisez, très bref, hein, je crois, pendant quoi, quelques minutes, vous utilisez un autre instrument. Donc pourriez-vous, voilà, peut-être partir de cet autre instrument pour ensuite développer, quoi que, après que développer, si ce n'est, enfin, vraiment la qualité, les choristes de la maîtrise de l'opéra, les jeunes enfants, mais ont une diction... Mais incroyable. Ils ont une voix également. Mais
et puis un travail de scénographie. Il faudra qu'on parle de la scénographie.
La lumière, visuellement, c'est très un belle. Spectacle d'une grande
beauté. C'est un spectacle
qui est
fait pour eux, finalement. L'écriture a été faite pour eux. Tout a été fait pour eux. C'est quand même eux le cœur du spectacle.
Voilà, on laisse les violons de côté. On parle davantage de la maîtrise de l'opéra. Moi, je vous en
non,
prie.
On parle des deux. On parle des deux.
Eh bien, parlons.
Et puis des influences musicales aussi.
Ah, il faut évoquer tout ça, oui. Frédéric.
Oui, en ce qui concerne la maîtrise, oui, vous l'avez bien dit, ce sont des enfants qui chantent merveilleusement et qui, nous, c'est un enchantement d'être à leur côté tous ces jours-ci, de travailler avec eux. Ce sont, en fait, on parle d'enfants, mais ce sont de grands professionnels qui sont d'une concentration et qui ont une capacité de travail hors norme. Donc voilà, on apprend beaucoup à leur côté Et ça va être très dur de s'arrêter, d'arrêter cette série de concerts.
Sous la direction de Madame Locatelli, c'est ça ?
Karine Locatelli.
Reçue dans cette même émission, émission numéro 70, le mercredi 10 juin 2015, ça remonte un petit
chef
peu.
Chef de la maîtrise, charismatique, talentueuse.
Brillante.
Oui. Ils étaient une trentaine, les enfants, à peu près. Hein.
Voilà, c'est ça. Il y a deux distributions. Oui. En fait, ils sont 60 à travailler sur Borghetea. Ils se partagent les concerts, 30 et 30. Voilà. Et puis pour revenir donc sur la musique, sur cet objet un peu singulier, Jean-François a très bien parlé du texte, des influences. On a du coup essayé de traduire toutes ces influences en musique aussi, et on a aussi un objet musical qui est riche de beaucoup de couleurs. Il y a notre fond de musique traditionnelle à nous autres de la soustraction des fleurs est très présent. On l'entend très bien. Il y a des chansons même d'allure très très populaire, couplets refrain. Il y a parfois certains passages beaucoup plus mystérieux, je l'espère, énigmatiques.
Pourriez-vous le dire peut-être une seconde? C'est que, autant vous l'avez bien indiqué tout à l'heure, le Quatuor Bella est, vous avez dit, très classique, alors que ce trio, la soustraction des fleurs, pour le coup, non, il n'y a pas vraiment de...
Oui, d'ailleurs, on n'a pas, de classique. Pas détaillé ce trio, donc, est composé de deux violons, mais c'est presque deux instruments différents, puisqu'il s'agit du violon de Jean-François, qui vient des traditions... populaire et le mien qui vient de la musique classique. Et puis il y a avec nous un percussionniste,
ah oui.
Sylvain Lemaître.
Excellent.
Qui sait faire beaucoup de choses, lui aussi formé comme percussionniste classique, mais gourmand, curieux de beaucoup de musique du monde entier, et qui pratique notamment un très bel instrument qui s'appelle le zarb, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est une percussion iranienne. Avec une richesse de timbre, de frappe à peu près illimitée, donc qui utilise beaucoup le zarb dans le trio et dans ce spectacle Borghetea.
Il pose une cymbale aussi hein, sur la.
Il y a beaucoup
avec l'attention de la peau sur une cymbale posée qui fait glisser.
Une cymbale retournée sur la peau, ce qui permet
c'est merveilleux,
de
les tonalités.
Faire fluctuer la vibration de la cymbale en termes de hauteur.
Ça ressemble à des percussions africaines.
Beaucoup d'idées très, très poétiques.
Ouais, j'ai cru qu'il avait un triangle à
attention
un
variable.
Donné. Et en fait, c'était pas un triangle.
C'est attention variable.
Pas de triangle. Il y a des petites crotales, des petites clochettes.
Et puis des petits bols un peu tibétains.
Des bols tibétains, exactement.
Ça sonne super bien. Et avec justement toutes ces cordes, c'est superbe.
Et donc,
il y a une grosse caisse aussi.
Un peu à la composition, donc vous disiez à l'instant, Frédéric Aurier, que vous avez respecté un peu ce qui fait la caractéristique, ou disons le fond, le répertoire
de la
société.
Le côté un peu Babel de ces peuples aussi. On évoque les transformations, les mutations. Des corps, les mutations physiques au fil des générations de cette humanité qui est soumise voilà, à un étrange...
Il y a une mue à la fin, les enfants se
retirent. Il y a aussi une mutation du langage, on s'attarde un petit peu sur la perte ou la transformation du langage, et ça donne l'occasion à quelques jeux musicaux et langagiers.
Et scénographiques très réussis.
Et scénographiques, voilà.
On n'est pas loin parfois de certains films d'animation de René Laloux, je pense à d'autres... de science-fiction, d'anticipation, avec des nouvelles sociétés, des nouveaux corps, certains mutants, je ne sais plus quel grand long métrage, René Laloux. C'est un peu l'ambiance aussi.
Il faut ajouter à ça qu'il y a une mise en scène, un vrai travail de mise en scène, un vrai choix d'image au plateau, donc qui est fait par Jean Lacornerie, qui est donc le directeur du théâtre de la Croix-Rousse, qui est entouré d'une très belle équipe. Au niveau de la scénographie, du son, de la lumière.
Bertrand Saugier.
Voilà, c'est vraiment un travail que nous, on a beaucoup apprécié. Et la direction de Jean est assez précise, exigeante, et en même temps laissant une vraie liberté.
Les enfants l'aiment. Ils étaient réjouis à la fin du spectacle lorsqu'il arrive sur scène. Ils ont applaudi à tout rompre. Ils poussaient des cris. Ils étaient contents. On n'aurait pas dit des enfants martyrisés.
C'est assez complexe. C'est une scénographie assez complexe. On ne va pas détailler, mais
à base de papier,
de bâches,
papier,
scratché.
Donc c'est vraiment une
très évolutif. Le décor est très changeant et tout est très très bien minuté. Enfin,
c'est très 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 préparé, très.
Et les couleurs, Gérald.
Beaucoup d'effets avec peu de choses. C'est des tonalités assez noires et blanches, j'ai trouvé.
Oui.
C'est une volonté, je pense.
Oui. Puisque orange, terre, sable, non ?
Le principal accessoire sur scène est à mon avis, les néons bleus là, qui font un peu le blanc fluo, quoi. Il y a un petit peu de ça. Et c'est assez fort. Et puis des petits dispositifs très classiques de rétroprojection avec des petites. On va pas tout dire, mais on peut faire des merveilles avec très peu de choses. Et c'est ça qui est très efficace et impressionnant.
Et c'était aussi le souhait de Jean de partir de choses très simples, parce que on est effectivement dans dans un monde, dans Borghetea, qui se refabrique, puisque l'histoire commence à se raconter après ce qu'on appelle les événements alpha, qu'on ne détaille pas, qui sont peut-être une catastrophe nucléaire, peut-être, on ne sait pas ce que c'est, mais en tout cas, la vie après Alpha est profondément modifiée et on repart d'une certaine façon de choses très basiques. Donc le souhait de Jean était aussi d'aller vers cette simplicité. Et donc finalement très peu de choses au plateau, mais avec très simple on peut faire beaucoup, et il l'a prouvé avec son travail. Donc ce qu'on pourrait peut-être ajouter avant d'écouter ce griot africain dont on parle depuis tout à l'heure, c'est que les interprètes qui sont au plateau, bien sûr, il y a la soustraction des fleurs et la soustraction et le quatuor bella, la soustraction des fleurs et le quatuor bella sont en réalité, même s'ils sont pas dans le même champ esthétique, de vieux compagnons qui se connaissent depuis très longtemps et qui
s'apprécient depuis très longtemps, qui s'aident depuis très longtemps. Notamment à travers un festival qui est le festival des nuits d'été à côté du lac d'Aigbelette, qui a été initié par ce quatuor.
Bel endroit.
Et où on a la soustraction a souvent été là, et je dois dire que on a
été attentif autant les uns que les autres à vraiment créer cet espace d'échange entre les musiques. Dieu merci, ces barrières qui étaient infranchissables ou en tout cas pas vraiment poreuse, je dirais, il y a une vingtaine ou trentaine d'années entre les musiques populaires et les musiques savantes. Aujourd'hui, grâce à des jeunes interprètes, jeunes, plus très jeunes maintenant, mais en tout cas les interprètes de cette génération, que ce soit eux ou nous, on a réussi à créer un espace d'échange. Et cet espace d'échange, on le travaille et on l'entretient depuis toutes ces années. Évidemment, Frédéric est dans les deux ensemble, donc ça facilite beaucoup les choses. Mais moi, j'ai fait, par exemple, un spectacle avec le Quatuor Bella, où j'étais invité par le Quatuor Bella à travailler avec eux en quintette. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est construit pendant ces dernières 20 dernières années, 20-30 dernières années. Et je pense qu'aujourd'hui la force aussi de propositions comme Borghetea, elle vient de ce travail et elle vient de cette volonté de décloisonner les musiques. C'est très important de le dire là aussi, parce que on est encore très très tributaire de cet esprit de famille qui nous casse les pieds à tous. Et voilà, et dont on a envie de sortir. Donc nous, on essaye de proposer quelque chose d'autre.
Comment en rendre compte, auditeur ? Moi, je ne vois que c'est facile à dire, donc allez-y, pour, on va encore en parler, bien entendu, mais allez-y, j'ai très précisément toutes les dates sous les yeux. Encore ce mercredi 10 mai à 19h30, jeudi 12, samedi, vendredi, jeudi, on dirait qu'il y a relâche, oui, parce que jeudi, c'est scolaire. Jeudi 11 mai, scolaire à 14h30. Il y a également une scolaire mercredi 17, mercredi prochain à 10h, donc si vous ne pouvez pas y aller le soir, allez-y. Non, c'est auditeur, allez-y plutôt en soirée. Donc vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14, attention, 15h, je me suis trompé en début d'émission. Lundi relâche, mardi 16, mercredi 17 à 19h30 encore. Allez-y pour voir ce spectacle, parce qu'il y a vraiment un aspect visuel, on l'a peut-être peut-être pas indiqué tout à l'heure, les musiciens sont sur scène, ils sont à gauche, donc ils sont au nombre de 6, je crois, puisqu'il devrait être 4 plus 3, 7, mais comme Frédéric Aurier appartient, comme il appartient aux deux, eh bien il fait le lien. Karine Locatelli est également présente sur une sorte de petit tabouret, puis c'est elle qui dirige ces jeunes enfants qui sont, eux, de l'autre côté de la scène, qui occupent toute la scène. D'ailleurs, il y a un moment où...
Bah, ils bougent beaucoup,
les musiciens se lèvent.
Ils font beaucoup de choses. Hein.
Tout le monde fait beaucoup
n'arrête
de choses.
Pas.
Il y a beaucoup de
grâce et de légèreté, de discrétion. Ils font évoluer tout le plateau pendant une heure. C'est assez époustouflant. D'ailleurs, je précise qu'il y aura beaucoup de scolaires, mais ce n'est pas un spectacle scolaire.
Ah non.
Ça transcende vraiment ces dimensions. Ça pourrait être le risque des fois, hein, quand il y a 30 élèves sur un plateau, parfois. On pourrait se dire, c'est un peu fin, c'est un spectacle de fin d'année. Quoi.
Ce sont des jeunes professionnels, ce sont des grands professionnels. Non, il y a une qualité chez eux. Est-ce qu'on écoute ce griot pour reprendre encore un peu d'énergie pour cette fin d'émission et parler plus précisément de l'acte 1, l'acte 2? Non, il n'y a pas d'acte 1 et d'acte 2, il y a plutôt chant premier, chant
deuxième. C'est des chants comme dans Homer, en fait. Hein. Les épopées, c'était surtout des chants, en fait. Voilà, on ne parlait pas d'actes encore, on parlait des chants, chant 1, chant 2, etc. Et là, on a amené avec nous un des modèles pour nous épiques, qui est le modèle de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, avec toute cette grande école des griots, donc les familles de griots. Et donc, c'est un court extrait de l'épopée de Sunyata, donc la grande épopée malienne.
Eh bien, nous essayons ça et puis on va voir. Eh bien, Gérald.
Alors qu'écoutions-nous, Christophe? Je n'ai pas la référence sous le nez.
Ah, moi non plus, je ne l'ai pas. C'est Jean-François qui
parle de tout. Alors, l'épopée Sundiata malienne, la grande dynastie soudiatienne malienne, chantée par des griots hommes. J'ai cru que c'était des voix de femmes, mais non. Il y a des griots, des grandes familles dont on connaît bien les noms, les Sissoko, les
Diabaté.
Voilà.
C'est la famille Sissoko ici.
Voilà, avec donc Cora, chant.
Oui, deux musiciens. Alors c'est intéressant parce que il y a deux joueurs de kora, un seul chanteur d'épopée d'une certaine façon, et l'autre qui intervient aussi vocalement. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. C'est souvent le cas, en tout cas dans certaines traditions, on a les témoignages que les chanteurs d'épopée étaient deux. Pour se relancer, l'exemple le plus fameux est, n'est pas l'exemple malien, mais l'exemple du Kalevala, donc cette épopée finlandaise où on sait que les chanteurs d'épopée racontaient, chantaient l'épopée à deux, l'un disant le texte et l'autre une espèce de paraphrase du texte et se relancer en permanence.
Un duel de tchatch, quoi.
Exactement.
Fabuleux troubadour.
Voilà, exactement.
Une joute.
Qui viennent de là, dans une tradition
gasconne.
Donc ici, le premier chanteur voilà chante l'épopée et l'autre ne fait que le relancer avec des encouragements. Mais cette façon de faire à deux m'a paru être une chose intéressante à utiliser dans l'écriture. Et donc j'ai proposé à Julien Boutin, l'altiste du Quatuor Bella, d'être avec moi pour porter le texte. Alors évidemment, il a un peu hésité au début et puis en fait, il s'est laissé convaincre assez facilement. Il a une magnifique voix, il a vraiment une vraie personnalité charismatique qui au plateau passe très bien. Et donc, on utilise donc ce passage de parole entre lui et moi. Et je dois dire que c'est quelque chose d'assez intéressant à faire, pas toujours très facile, parce que finalement, se passer la parole d'une phrase à l'autre, c'est pas toujours très très simple. Mais en tout cas, voilà encore un exemple de la façon dont on s'appuie sur ces choses traditionnelles.
Et la parole ne fait que circuler d'ailleurs, puisqu'à un moment, les textes qui sont chantés, dits par les chanteurs disent les enfants eux aussi des textes, et la parole ne cesse de passer avec les musiciens dans les ensembles, etc.
Tout Donc, à fait.
Beaucoup d'énergie de gens circule et la parole circule beaucoup.
Tout à fait.
Comme dans une Babel justement.
Alors, Babel, on pourrait être jaloux.
Mais là, ils se comprennent.
C'est dans le cadre de... Était-ce un festival? Non, la première de ce spectacle Borghetea, c'était le samedi 25 mars, je crois. Moi, je pensais que c'était le théâtre de la Croix-Rousse qui, étant le commanditaire, avait droit à la première. Et non. Mais alors, c'était une première sans les enfants, hein, je crois, Frédéric, c'était ça?
Alors, c'était une première avec d'autres enfants qui sont des enfants pas forcément chanteurs, plutôt musiciens, des enfants d'école de musique, des chœurs de collège, qui n'ont peut-être pas le temps de travail, le rythme de travail voilà, effréné de la maîtrise.
Ça devait être bien, mais c'est mieux à la Croix-Rousse quand même.
C'est différent.
Allez-y.
C'était fameux à Grenoble parce que les enfants étaient très nombreux, très bien préparés, très investis. C'était une version... Deux concerts, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mise en scène.
Alors j'ai pensé à ça parce que ça se faisait dans le cadre, ça s'appelait, il y avait le mot Babel qui apparaissait.
Oui, c'est le festival Les Détours de Babel, le fameux festival grenoblois.
Nous avons reçu un grand comédien grenoblois, te rappelles-tu, Jean-Marc Galera, je crois, pour la pièce au mois de mars, c'était tiré d'Albert Camus, La Chute.
Borg et Théa, ça viendrait d'où ces petits prénoms? Parce que Théa c'est Théo, en même temps c'est une femme, donc c'est une déesse, c'est quoi? Et Borg, c'est très viril, Borg, ça fait un peu cyborg. Ils viennent d'où ces prénoms?
Cyborg.
Comme ça? Comme tous les autres jeux littéraires qu'il y a dans ce texte?
J'ai pas de référence très très précise. C'est plein de choses, Borg. Bien sûr, c'est pour moi les gens de ma génération, c'est les joueurs de tennis.
Ben voilà, Bjorn, ouais. C'est ça. Oui.
On y pensait aussi. J'ai pensé d'ailleurs.
C'est assez masculin. Mm-hmm. Je pourrais pas dire. Je fais assez confiance au premier jet. Il y a Speck, il y a Fundia, j'ai aussi essayé de mélanger, il y a Torlaf, qui pour moi est vraiment quelque chose qui vient du Nord.
Teutonique.
J'ai essayé de mélanger des, moi je suis très sensible à la sonorité des mots, au son des mots. Donc j'ai essayé de mélanger des provenances diverses, puisque finalement tous ces hommes qui se retrouvent ensemble, ils sont tous mélangés. D'abord, il n'y en a que quelques-uns qui survivent, après Alpha, et puis ils sont quelques-uns, donc ils sont tous mélangés, et tout est... Voilà, donc on est un peu comme une espèce de diaspora finalement, de gens qui sont là et qui essayent de survivre dans un monde qui est devenu très hostile avec la chaleur. Et donc... Donc voilà, c'est un peu, il y a des choses très simples. Après, c'est la montagne, l'eau, la terre. Ça part d'univers comme ça, très, très basique, très simple, comme presque une histoire de création finalement.
Je pensais à l'origine des espèces d'Aspergis, d'ailleurs.
Bien sûr, bien sûr.
Aspergis, pardon, pas Aspergis. Aspergis, ça suffira.
On a dû lui faire souvent, je pense, mais c'est Aspergis. Ouais.
Mais c'est un peu ça au début, hein, ceux qui vivent sous l'eau,
oui,
ceux qui vivent sous terre. On pense
sûr,
à ça aussi.
Bien sûr, bien sûr.
Maintenant
bien
que vous
sûr,
le dites.
Bien sûr, tout à fait. Tout à fait.
Je l'avais dit, nous arrivons en fin d'émission, il reste 2-3 minutes et on n'a même pas pu lancer qu'allez-vous faire. Il me semble que Blues des Canuts, je crois que ça n'aura pas lieu. Alors on va peut-être se permettre de déborder un petit peu. Généralement, Pascal est déjà là.
Ce spectacle va avoir encore une vie après cette programmation en tête de la Croix-Rousse pendant une semaine.
Oui, on l'espère. On fait tout pour ça.
Et puis un enregistrement, paraît-il.
Oui, un enregistrement. Et donc
qui sera réécoutable.
Peut-être
filmé.
Oui, on espère qu'il va y avoir un rebond, en tout cas des rebonds pour le Quatuor Bella qui va faire de nombreux concerts, la Soustraction qui va jouer cet automne et cet été et enregistrer un nouveau disque. Voilà, donc
vous avez déjà plein de projets de tous les côtés.
Dans ce contexte agité pour la culture, ma foi, les choses se poursuivent malgré tout.
Tu voulais en parler, je crois, Gérald, est-ce le dernier enregistrement du
Quatuor Bella avec Albert Marker, hein, l'inénarrable Albert Marker que peu de gens connaissent. J'ai découvert ça très tardivement parce qu'il est tellement introuvable dans les bacs. Il est complètement atypique, quoi. Il est hors showbiz total, mais il est toujours actif et il est très intéressant. Et il fait une musique expérimentale, un peu difficilement qualifiable d'ailleurs.
Mais... Oui, Albert Marker, la phrase qui revient généralement, c'est... de le comparer à Frank Zappa, d'en faire le Zappa français.
Franco du Nord, non, je crois. Il habite dans le Nord ?
Non, il habite en Bourgogne.
Ah oui, enfin, il travaille beaucoup en Belgique, il me semble, dans le Nord de la France.
C'est vrai qu'il a fait pas mal de choses dans le Nord et en Belgique, mais il n'est pas particulièrement... Non, il est bourguignon même.
C'est d'origine. Un touche-à-tout, vraiment.
Oui, c'est un génie, on peut le dire. C'est un génie qui...
Vous êtes rencontrés comment alors ?
Alors, c'est aussi une très vieille rencontre. En fait, la rencontre avec Albert s'est passée presque au début du Quatuor Bella. Et c'est un événement fondateur de notre Quatuor. On a toujours joué beaucoup de musique d'Albert. Et là, enfin, on a enregistré ce disque où il y a lui et nous, on est 5. Et voilà.
Alors, il y a une magnifique pochette, édition, label, édition.
Bella Label.
Bella Label.
Et Label Frère.
Et donc, Label Frère de Albert Marker. Voilà. Donc, si oui, oui, sinon, non, avec une magnifique pochette créée par Plonk et Replonk. Voilà, les gens connaissent mieux déjà Plonk et Replonk. Hein.
Ouais.
L'absurde. Ils sont suisses, hein, je crois, Plonk et Replonk.
Oui, chaud de fond.
Voilà. Oh, ça promet, hein, avec un beau livret et tout. Bravo. Hein. On pourra peut-être écouter un extrait pour finir l'émission.
Bien, c'est prêt.
Et puis vous pouvez écouter aussi Jean-François Vrault sur la belle signature de France Musique ou France Culture ou Radio France.
France Musique, Radio France, oui.
Voilà, ouais. Très très bon label avec aussi que des choses exceptionnelles, rares. Des choses rares, exigeantes.
Oui, c'est un
qui puise dans toute la culture universelle.
Un beau label, oui. Oui, tout à fait.
Voilà.
Et un label de service public, rappelons-le. Voilà, en ces temps politiques
troublés,
je sais pas, mais dont on attend beaucoup. Donc voilà, défendons le service public, continuons à défendre le service public, même au niveau de la musique et du son et de la culture. On en a bien besoin.
C'est clair.
C'est le mot de la fin, je crois, je pense. Il est pile 15h, tant pis, il n'y a pas de Blues des Canuts. Gérald, j'avais
pas lancé
Albert. Hein. Qu'est-ce qu'on écoute d'Albert Marker ?
Pour vraiment donner envie aux gens d'écouter tout l'album.
La troisième ?
Eh bien, c'est ce que nous allons faire.
Un petit bout de la troisième.
C'est ce que nous allons faire. Nous enchaînerons après sur le générique de fin d'émission. Je le rappellerai en toute fin d'émission. Alors, je rappellerai une ultime fois les différentes dates pour ce spectacle Borg et Théa au théâtre de la Croix-Rousse. Donc, Albert Marker.
Et l'ensemble Bella, le Quatuor, les valises à roulettes.
Il a un titre, ce que nous allons écouter précisément.
Les valises à roulettes.
Bah, c'est très bien.
Ils envahissent le macadam, ils empoisonnent les zones piétonnes, elles déambulent à l'unisson, zigzag, se faufilent, s'immiscent dans les interstices. Les valises à roulettes, les valises à roulettes, les valises à roulettes. Les valises à roulettes, les valises à roulettes, les valises à roulettes. Les valises à roulettes, les valises à roulettes, les valises à roulettes. à roulettes, les valises à roulettes. Les valises à roulettes, les valises à roulettes, les valises à roulettes. Les valises à roulettes, les valises à roulettes, les valises à roulettes.
Attention, ceci est un message auditif à caractère informatif. Cette année, Radio Canu fête ses 40 ans, le 19 et 20 mai de l'an 2017, dans la ville de Lyon. Vendredi 19 mai, ça sera une projection du film Lorraine Cœur d'Acier à l'atelier des Canulars à 20h. Le samedi 20, moult émissions en direct de la place Guichard de 11h jusqu'à 19h. Des discussions, des débats, un bon parti logé, de la musique douce et un open mic avec des micros, le tout retransmis en direct sur le 102.2, la fréquence hertzienne.
J'ai tellement sur vous.
Et le soir, des concerts avec les Chevals Hongrois, viscéralement déviant, Munza, Zona Fini, Dafaut, une boum,
une boum,
une boum. Ça se passe au Erkesunöylazant, dans un lieu tenu secret jusqu'à que ça ne soit plus un secret du tout. Soirée prix libre en soutien à la caisse de solidarité. Festival Radio Canu, le 19 et 20 mai.
Auditeur. Excellente nouvelle, le Blues des Canus va bien avoir lieu, donc il est 15h04, nous lâchons l'antenne, nous laissons l'antenne. Je rappelle une ultime fois, Borg et Théa, cet excellent spectacle, vraiment une qualité, mais artistique stupéfiante, prodigieuse, absolument géniale. C'est au Théâtre de la Croix-Rousse, ça a commencé le mardi 9 mai, si vous avez raté ça, eh bien il reste encore maintes dates jusqu'au mercredi 17 mai. C'est à 19h30 en soirée, 15h le dimanche, relâche lundi, et puis voilà, si vous souhaitez d'autres renseignements, rendez-vous sur le site du Théâtre de la Croix-Rousse, croix-rousse.com, ou bien appelez-les si vous le souhaitez également, 04 72 07 49 49. Allez également voir la présentation de saison les lundis 22 et mardi 23 mai. Et puis voilà, je crois qu'on a tout dit. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler de Jazz à Vienne avec Benjamin Tanguy. Et puis c'est tout. Pascal est là pour le Blues des Canus. Je le laisse commencer. Et puis je vous souhaite une bonne semaine à tous, une bonne journée. Et à très bientôt. Ciao tout le monde. Bye.